Comment ça va?
Je respire. L'air est pur, tout est calme. Je me détends.
C'est bon.
Orange juice with that ice, madame.
Thank you.
L'été comme jamais.
Oh, toi, t'es encore allé courir. La question était devenue quasi rituelle le lundi matin de la part de mon patron. Il venait encore de recevoir un mail de ma part avec des idées d'émission. Au fil du temps, il avait compris que ce message de début de semaine avait de toute évidence un rapport avec le week-end. Et c'était le cas, j'étais allée courir. Courir et penser, mon activité dominicale, comme si chaque foulée envoyait une décharge à mon cerveau, comme si chaque pas physique devenait aussi un pas dans ma façon de raisonner, de penser. Ça cavalait dans ma tête, les idées se bousculaient, s'aggloméraient, s'évaporaient parfois. Et puis tout à coup, l'une plus pertinente, à mes yeux en tout cas, apparaissait comme une évidence, l'idée lumineuse. À ce jour, j'ai accumulé des kilomètres en basket, des mails longs de plusieurs kilomètres aussi, mais en toute honnêteté, j'ai pas eu d'idée géniale, celle qui m'aurait permis de crier Eureka ou qui aurait renfloué mon compte en banque. Alors je continue de courir pour le plaisir physique et cérébral. Mais comment ça se passe pour les scientifiques, les chefs d'entreprise, les artistes? Comment naissent leurs bonnes idées? Et vous, au quotidien, à quel moment pensez-vous avoir la bonne idée?
Eva Roch sur France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'été comme jamais sur France Inter. Et grâce à nos quatre invités, aux profils très différents, nous allons tenter de comprendre comment et quand naissent les bonnes idées. Bonjour Justine Barbier.
Bonjour.
Vous êtes philosophe et vous avez tenté de nous expliquer notamment le rapport entre l'esprit et le corps. Cela devrait intéresser notre deuxième invité. Bonjour Nadia Vadori-Gauthier.
Bonjour.
Vous êtes danseuse, chorégraphe, docteur en esthétique, sciences et technologies des arts. On avait très envie de comprendre comment vous parvenez à traduire une idée né dans votre cerveau en un ballet, comment le corps et l'esprit se répondent, notamment pour produire une minute de danse par jour. C'est une vidéo quotidienne que vous réalisez depuis les attentats de janvier 2015. Avec nous en ligne également, Juliette Brun. Bonjour Juliette.
Bonjour.
Vous êtes docteur en management de l'innovation et consultante, autrice de « D'où viennent les bonnes idées ?» C'est paru chez Diaténo. Et enfin, celui grâce à qui est née cette émission, le producteur de séries et de documentaires, Harry Torjman. Bonjour Harry.
Bonjour Eva.
On vous doit la production des séries Bref, Bloqué, Serge le Mytho, mais aussi du documentaire à voix haute. Et nous envisageons tous les deux de créer un club. Est-ce que vous pouvez dévoiler de quel club il s'agit?
Et bien sûr, avec grand plaisir.
Allez-y.
Le club, ce sera le club de la douche, en fait, tout simplement. Je pense qu'on peut l'appeler comme ça. Des gens qui prennent la douche et qui ont des idées dans la douche.
Alors écoutez, on est déjà nombreux, Harry, parce qu'on a envoyé un petit message ce matin aux auditeurs pour savoir à quel moment ils avaient des bonnes idées. Et figurez-vous qu'on a plusieurs confrères qui nous ont répondu que c'était la même chose pour eux. Par exemple, Mohamed Bouafsi, le matin sous la douche, un matin où j'ai l'impression que je suis totalement ouvert aux réflexions et aux idées. L'eau me donne de bonnes idées en plus, nous dit-il. Ou Julien Arnaud qui nous dit, moi aussi c'est sous la douche, même si à 3h45 du matin, il est matinalier, on n'a pas trop le temps de réfléchir. Donc les bonnes idées peuvent naître sous la douche, en courant, ou en jardinant, je ne sais pas. Dites-nous, vous, comment naissent vos bonnes idées. Mais avant tout, à vous quatre, pouvez-vous me dire quelle est la bonne idée que vous avez eue récemment et à quel moment elle est apparue, Nadia Vadori-Gauthier?
Alors, je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais pour moi, une bonne idée, c'est quelque chose qui marche et que je peux partager, quelque chose qui peut permettre d'ouvrir des possibles. Et je pense que les idées récentes que j'ai pu avoir, ça concerne plutôt le processus de création, oui, et aussi la transmission de ces protocoles pour d'autres. Comment est-ce que je peux permettre à d'autres personnes de faire des expériences qui ouvrent leur perception? Donc, peut-être la dernière idée de protocole que j'ai eue, elle concernait différentes façons de se connecter à son intériorité ou qu'est-ce que ça peut vouloir dire de se connecté à son intériorité. Donc j'ai développé comme une gamme de possibles et aussi à l'extériorité. Qu'est-ce que ça veut dire d'être avec sa perception externe? Une gamme de possibles que j'ai nommée et partagée pour permettre à des gens de faire des expériences et ça marche.
Et alors ce protocole, il est né comment dans votre esprit? Enfin en tout cas, à quel moment il est né? Ça a été un long processus, un cheminement où il y a eu un moment, un déclic?
C'est-à-dire que la matière que je travaille, je la porte en moi, donc elle est là tout le temps, mais je pense que pour que une idée jaillisse, je me connecte à un espèce de silence dans mes sensations, comme une espèce de volume de silence un peu qui pulse.
Ouais.
Et peut-être en marchant ou simplement en me connectant à la nature et en ayant plusieurs dimensions à la fois, sans forcément chercher l'efficacité, émerge comme une solution de relation entre différents points. C'est comme ça vient de plusieurs chemins à la fois et c'est comme une réponse qui m'apporte non pas c'est pas lumineux comme la petite ampoule qui s'allumerait, mais une espèce de solution d'apaisement qui ouvre un champ. Dans ce cas-là, je sais que j'ai quelque chose que je peux partager.
Le champ des possibles.
Champ possible, un champ de vie, quoi, un champ de joie.
Juliette Brun, est-ce que vous vous souvenez de la dernière bonne idée que vous avez eue et dans quel contexte vous l'avez eue?
C'est pas vraiment une bonne idée que je moi-même, mais c'est une bonne idée dont j'ai accompagné l'émergence au cours d'un projet.
Oui.
L'an dernier, j'ai conduit un projet sur la santé du futur, au cours duquel on proposait à des usagers d'imaginer la santé qu'ils aimeraient vivre à horizon 2060-2070. L'objectif, c'était de faire émerger des projets innovants en santé. Et au cours d'un atelier, l'un des participants nous a confié qu'il avait des problèmes de mémoire. Et que lui, il aimerait bien avoir accès à un outil qui lui permettrait de stocker ses souvenirs et des informations de la vie quotidienne afin de pouvoir y accéder facilement en cas de besoin. C'est une idée que ce participant a appelée la béquille mémoire et qui m'a particulièrement marquée.
D'accord. Et donc, c'était dans un contexte d'atelier où vous travaillez à plusieurs. On va revenir sur cette idée de collectif ou pas pour la création, pour ce moment où naissent les bonnes idées. Et vous, Harry Torgeman, vous vous souvenez de la dernière fois que vous avez eu une bonne idée? Et dans quel contexte? Alors, sous la douche, j'imagine, mais c'était quoi?
Et non, pas sous la douche. Non. En fait, c'était dans le cadre de la production de notre prochain film documentaire. En fait, on était en montage du film et on cherchait un compositeur pour composer la musique du film. Et on n'arrivait pas à le trouver. Et il se trouve qu'en descendant les escaliers de la salle de montage, quand on s'est retrouvé dans la rue, j'étais avec mon équipe du film, et ben, cette idée m'est apparue, un peu comme ça, un peu d'un coup. Je l'ai partagée. Et donc ça se trouvait dans la rue, donc pas du tout sous la douche, pour une fois.
Mais alors, vous avez trouvé l'idée du compositeur ou vous avez trouvé l'idée de la composition musicale dans son ensemble, en fait?
Ah non, ça serait trop simple.
Ça
non,
serait trop simple.
L'idée, j'ai trouvé l'idée du compositeur,
oui.
Et donc de la rencontre, mais c'était pas tant pour le film, c'était plus pour la rencontre entre deux personnes, entre la réalisatrice et le compositeur. Je trouvais qu'ils avaient quelque chose qui pouvait bien fitter.
C'était ça, il y avait une sorte d'évidence qui tout d'un coup est apparue en descendant cet escalier. Et vous, Justine Barbier, alors la dernière fois que vous avez eu une idée qui vous a semblé bonne, et dans quel contexte vous l'avez eu cette idée?
Alors, je ne sais pas si je peux arriver à localiser un moment précis. D'une certaine manière, c'est une idée en présence de laquelle j'étais, une idée qui m'habite depuis toujours. Et j'ai envie de rebondir sur ce mot partage qu'on a entendu ici, puisque c'est finalement une idée autour du partage. En fait, l'idée, ça consiste à penser que le livre, la lecture, n'est pas qu'une activité solitaire. Elle peut aussi se partager à deux. Et donc, à l'arrière-plan, il y a une idée qui me tient vraiment à cœur, qui est de redonner à la philosophie, à cette sagesse qui est sédimentée dans les livres, sa dimension du soin. C'est une idée, je tiens à préciser, elle n'est pas du tout nouvelle. En fait, elle existait dans l'Antiquité. Il y avait ce qu'on appelait donc des cabinets de philosophie où on allait voir ces philosophes parce qu'on avait
une interrogation, ouais.
C'est ça. Et il y avait vraiment cette idée donc qu'on pouvait soigner grâce à la pensée. Donc mon idée, pour résumer, c'est soigner grâce à la lecture, en fait. Et parce que le livre, pour moi, c'est déjà, on rencontre un livre, le livre fait irruption dans notre vie, il y a quelque chose de très fort, je pense vraiment que c'est puissant, une lecture. Et je pense que c'est difficile de le faire seul, pour différentes raisons, en fait. Déjà parce que un livre contient, enfin, il y a autant de choses qui se disent que de choses qui ne se disent pas.
Qu'on peut interpréter, qu'on peut imaginer, c'est ça?
Il y a des blancs, il y a des lacunes, il y a des absences, il y a des choses qu'il faut reconstruire. Donc ça, c'est une grande difficulté. Par exemple, on peut citer Rousseau dans Les Mille qui dit « Mais s'il faut tout vous dire, ne me lisez pas ».
Voilà, oui.
Il est très autoritaire, presque. Donc ça me semble être l'une des premières difficultés. La deuxième difficulté, elle me semble liée au fait, toujours pour rester dans cette idée du soin, elle me semble liée au fait qu'un livre, enfin pour moi, un livre, ça se diète. C'est-à-dire, on va jusqu'à plus soif. Et la fin de la soif, c'est le moment où cette connaissance, ou cette sagesse, ou ces belles idées, pour moi, c'est ce moment où les idées peuvent enfin s'appliquer. Elles peuvent enfin être incarnées, arriver dans une existence. Et donc, c'est la raison pour laquelle il me semble essentiel de guider quelqu'un.
Alors, c'est marrant parce que Justine Barbier, comme vous, Nadia, Vadori Gauthier, vous êtes dans cette idée de transmission de cette rencontre, alors à travers l'art, la danse, mais aussi l'intériorité, à travers le livre. Et vous avez dit une chose très importante, Justine, c'est que c'était pas l'idée originale que vous avez eue de ce partage de lecture, puisque c'était déjà le cas chez les Grecs. Est-ce que l'idée originale, est-ce que l'idée unique existe réellement ?
Alors, si elle existe, je pense qu'elle est vraiment très très rare. Et ouais. que ça me semble assez prétentieux de dire, voilà, c'est mon idée. Parce qu'en fait, si on creuse un petit peu, on se rend compte que quelqu'un l'a peut-être déjà eu, et ça n'a finalement pas vraiment d'intérêt. Donc c'est pour ça que ce qui m'intéresse dans l'histoire, c'est de se dire, cette idée, j'ai l'impression, alors ça peut sembler un peu mystérieux, mais j'ai l'impression qu'elle m'a autant choisi que je l'ai choisi.
Ouais.
Un peu comme Montaigne qui disait, j'ai fait ce livre autant que ce livre m'a fait, bah, cette idée, elle est venue à moi. Et de la même manière, ce que je propose finalement, on peut jamais forcer personne, en fait. Donc c'est une manière d'amener quelqu'un à la lecture. Sans le forcer, en fait, c'est une suggestion, c'est une recommandation. Et finalement, là, j'ai une petite anecdote que j'avais trouvée un petit peu drôle, mais ma mère me disait, bon, bah, pendant les vacances, en fait, on n'était pas 7, on était 8. Alors, pourquoi 8 ? Bah 8 parce qu'il y avait Rousseau avec nous. Et alors, du coup, je rebondis là-dessus parce qu'on pourrait se dire, je les ai forcés, les pauvres, ils ont dû subir les mille de Rousseau pendant tous les repas, alors que c'était l'été comme jamais, l'été, oui. Il fait beau, etc. On n'a peut-être pas envie de les mille. Mais alors, ce que j'ai eu la grande joie de constater, c'est qu'en fait, ils avaient couru acheter les mille à la suite.
C'était devenu un convive aussi de votre été, Émile Rousseau.
Et puis, ils sont allés acheter le livre après.
Ouais, ouais.
Donc, ils ont suivi la recommandation et on est passé d'une dynamique où j'ai eu un peu l'impression de forcer quelque chose, et puis en fait avec quelque chose de très volontaire de leur part, et voilà.
Nadia Vadori Gauthier, elle existe cette idée unique et originale, vous pensez, dans l'art de la danse notamment ?
Alors je sais pas si, enfin moi je pense pas tellement en termes d'idée unique,
oui.
Je pense à Spinoza qui dit on a que les idées de son corps.
Oui.
Et quelque chose comme plus un corps est apte à se mouvoir d'un certain nombre de façons ou à se disposer d'un certain nombre de façons, plus son esprit ou sa pensée finalement est apte à se mouvoir d'un certain nombre de façons. Et je pense que donc si on a que l'idée de son corps, et comme chaque corps est irréductiblement singulier, finalement chaque idée qui émane de cette corporéité est singulière en elle-même. Après, bien sûr qu'on est traversé, influencé par les idées des autres, par des pensées qui nous précèdent, parfois on réinvente quelque chose qui a été inventé déjà mille fois
bien
avant
sûr.
Nous, mais il y a cette idée pour moi de l'idée vraiment qui naît des sensations et presque d'une rencontre entre l'intériorité et l'extériorité, entre soi et le monde, et c'est dans cette friction ou dans cette différence, pour résoudre quelque chose aussi de la singularité ou de l'idée, pour pouvoir la partager, qu'on est obligé de trouver des chemins, et donc des chemins de matérialisation, des chemins d'incarnation dans la matière, des chemin de réalisation, et pour ça plusieurs options sont possibles. Par quels moyens est-ce que je peux traduire en acte la sensation que j'ai, le mouvement que j'ai, l'état, l'émotion que j'ai, comment est-ce que je peux en rendre compte et surtout permettre à d'autres peut-être de faire leur propre chemin en cherchant des protocoles. C'est un peu dans ça que je me lance, quoi.
Et Nadia Vadori Gauthier, pour tout vous dire, essaye de me convaincre qu'on peut tous danser, hein, et qu'il y a quelques deux, trois conseils à avoir pour se mettre à danser. On va voir si à la fin de l'émission vous arrivez à me convaincre. Je suis pas sûre. Harry Torgeman, est-ce que dans le métier de la production audiovisuelle, l'idée géniale, l'idée unique existe ?
Oh, ça serait fabuleux.
Oui.
Non, je pense pas du tout. Je pense que c'est tout à fait juste de dire que toutes les idées ont déjà existé, en fait.
Oui.
Nous, on fait que resynthétiser des idées préexistantes, souvent de manière d'ailleurs inconsciente. Hein. C'est pas tout à fait conscient parfois de sortir une idée, de dire tiens, ça c'est une idée ultra originale. Si on creuse un peu, effectivement, on se rend compte qu'elle a déjà existé dans d'autres films, dans d'autres séries, ailleurs, et que en fait on a fait une synthèse parfois de plein d'idées différentes.
Bien sûr.
Et il se trouve que, voilà, qu'une idée émerge par ce biais-là.
Alors, Juliette Brun, je vais y arriver avec tous les prénoms de nos invités. Juliette Brun, dans un instant, vous allez nous raconter ce que c'est que la sérendipité, parce que ça nous intéresse beaucoup. Et puis, nous reviendrons sur le lien étroit entre corps et esprit. Mais vous qui nous écoutez, dites-nous à quel moment vous avez des bonnes idées, puis réagissez aussi au dire de nos invités. Vous pouvez nous appeler au 01 45 24 7000 ou nous envoyer un mail ou une note vocale. Il suffit de cliquer sur le bouton réagir sur la page de l'émission L'été comme jamais via l'application ou le site. Finally made some time for me. I'm happy, I'm calm, I'm jiggy, I'm sweet. I'm chasing my dreams, you're Aggie with me. Cause I didn't fit in the mold of your schemes. I'm reckless enough to go spend all my fees, but cautious enough to invest in my dreams. The vision, the board, the flying abroad, the Gucci, the Prada, you're lost in the sauce. I'm lost in the stew, I'm lost in the concept of fixing a brew. Identity crisis for me and my crew. We're black and we're British and African too, but so far removed. I'd like to go back to my mother's land. I'd like mental peace and 100 grand and a pen. Babes, and we'll do up raves like it's 98. I'm so 94, but I'm work a lot more money, a vacation home, a Nigerian honey who laughs at my jokes even when they're not funny. Support my cause and I'll support yours. Buy me a Benz, look, I'll buy you a Bimmer. Posted in Jamaica, Beanie Man, Sim Simmer, a Honda Accord. Who's got the keys to the Porsche? Force, he's got some keys to afford. I'm so flawed, but that's calm. I can't sleep, I take calms. Herbal remedies like tea for me. Gucci, drinking wine and cheese. Catch me in the dance, drinking wine, say cheese. You got that foot in your mouth situation. I got that foot up my inspiration. World domination. But I la jeune prodige du rap londonien Henny et son titre I Want sur France Inter. Tout le monde a de bonnes idées, vous qui nous écoutez, nos invités du jour et les artistes. Avec eux se conjuguent les mots création, inspiration, intuition. La preuve avec ce montage son très inspirant réalisé par Juliette Medevielle avec les voix d'Agnès Varda, Karl Lagerfeld, Brigitte Fontaine, Amélie Nothomb, Pénélope Bagieux, Philippe Catherine et Arthur H.
Bah, comment elle naît l'idée? Si on ne sait pas comment elle naît, on n'a pas la moindre idée. On peut que constater que les idées nous traversent.
Les choses se présentent et suscitent ce qu'on pourrait appeler l'inspiration. On est en attente, on est ouvert au hasard et le hasard porte les choses.
C'est comme des flashs électroniques, je vois tout d'un coup un truc. Même aussi dans la vie, même dans la baignoire, ça prouve que je suis complètement imbibé de mon métier. Je suis ravi.
Quand écrivez-vous et comment?
N'importe quand, avec plaisir et effort, mais sans contrainte.
Le vrai but de ma vie, c'est de continuer à écrire dans les mêmes conditions, si dures soient-elles. C'est quand même le moment magique de ma vie. Et je veux continuer à le vivre.
Donc même si on me dit au final, c'est pas dingue ce que t'as fait. Je me dis oui, mais moi j'ai passé 4 heures géniales à le dessiner. Donc en fait, c'est ça le bon calcul.
Moi, je m'hypnotise moi-même en répétant plusieurs fois les mots, les mélodies. À un moment, je suis complètement barré, je suis en transe, le monde extérieur n'existe plus. Et puis, je suis que dans la joie du rapport avec cette nouveauté là, qui apparaît devant mes yeux, qui se donne une forme.
Ça peut ressembler à une guerre avec soi-même, contre le monde des fois, ou alors parfois un coït.
ça devient une habitude en plus, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose de très simple et marrant.
Une joie, une guerre, un coït. Vous voyez comment naissent les bonnes idées. Ça peut prendre différentes formes, évidemment. Juliette Brun, il y a un mot qui revient souvent quand on évoque ces idées originales, ces bonnes idées. Et vous en parlez dans votre livre, c'est celle de la sérendipité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que la sérendipité ?
La sérendipité, c'est un mot qui a été inventé par un homme de lettres britannique, Horace Walpole, en 1754. Et qui désigne notre faculté de découvrir, à la fois par sagacité et par hasard, une chose que l'on n'avait pas cherchée. Donc elle met en œuvre notre sagacité, hein, c'est notre capacité d'observation, d'association, de déduction, et aussi une part de hasard, de chance, d'accident, qui va nous permettre d'intégrer à notre réflexion des connaissances nouvelles et aléatoires. Et de nombreuses innovations sont réputées comme ayant été découvertes par cette fameuse sérendipité. C'est notamment le cas du velcro, des bêtises de Cambrai ou encore de la pénicilline.
Nadia Vadori-Gauthier, est-ce que vous parlez de sérendipité quand vous parlez de création chorégraphique, par exemple?
Oui, je crois qu'il y a un agencement entre être immergé en quelque chose et le fruit du hasard de la rencontre avec le monde, que quelque chose jaillit dans cette rencontre à un instant donné, quoi.
Et vous vouliez d'ailleurs revenir sur cette idée d'idée originale. Vous me disiez pendant la musique, en fait, ça dépend aussi de ce lien que l'on peut créer entre tout ce qu'on a accumulé au cours de nos vies.
Oui, voilà, il y a plein de personnes merveilleuses qui ont eu des idées merveilleuses et des bonnes idées, mais qui existent déjà avant nous. Mais c'est la façon spécifique qu'on a de par son parcours ou sa formation ou simplement sa disposition de corps ou d'âme de faire des liens entre des idées qui existent déjà. Et c'est la façon spécifique dont chacun va faire un lien à partir d'un point de vue unique qui est finalement générateur d'idées et que seule une personne, cette personne peut faire, quoi. Et je pense aussi à Simondon qui utilise, Gilbert Simondon, le terme de transduction et qui consiste à déplacer presque un concept d'une matière à une autre ou d'une pratique à une autre et de voir comment ça fonctionne aussi sur d'autres strates. Et ça permet d'avoir des idées à partir d'idées.
Oui, c'est ça.
Selon la façon dont on les vit, quoi. On les corpore.
L'esprit d'escalier comme ça qui nous amène aussi à cette bonne idée. Ouais. Vos multiples idées, elles laissent aussi donc dans votre cerveau et elles se traduisent par votre corps ou c'est l'inverse? Est-ce que c'est votre corps en fait qui vous donne les bonnes idées?
Mais pour moi, il n'y a pas de différence. C'est comme deux langues de la même matière. Il y a la langue qu'on peut dire intellectuelle et puis la langue somatique ou physique, mais ce sont comme deux langages d'une même source pour moi. Et tout à l'heure, je disais, on n'a que les idées de son corps. Donc moi, je pense que oui, les idées naissent de mes sensations, mais même d'un espèce de silence entre les particules, presque un état moléculaire que j'appelle poudroiement d'or, un espèce de
beau,
silence
oui.
qui pulse. Artaud disait que le silence, le vide est le foyer murmurant de vivre. Et je pense que de ce foyer murmurant de vivre naît quelque chose qui passe par les sensations et qui après soit se met en danse, soit se met en pensée. Mais ce sont deux canaux différents d'une même source pour moi.
Justine Barbier, comment la philosophe envisage justement le rapport entre le corps et la naissance des idées?
Alors déjà, je tiens à dire à quel point je bois les paroles de
Nadia.
J'aime beaucoup, vraiment, parce que je trouve ça justement très important, la poésie, et que vous ayez une langue si poétique comme ça, de si beau matin. Je trouve ça magnifique. Donc, le rapport au corps, enfin, j'ai envie de rebondir justement sur ce qui a été dit, c'est-à-dire ce poudroiement d'or. En fait, j'ai envie de rebondir sur plein de choses, parce que je voulais le dire tout à l'heure, mais pour moi, ce que je fais, c'est aussi inviter quelqu'un à aller chercher l'or dans des pages. Et donc, il y a un rapport au corps, évidemment. Il n'y a pas de différence d'une certaine manière. C'est-à-dire que, reprenons la phrase que dit Nietzsche dans Ainsi parlait Zarathoustra. Il dit « Il y a plus de raison dans ton corps que dans ta meilleure sagesse ». Et donc, effectivement, c'est une manière de dire « On est dans du plus ou du moins, mais pas dans du différent
».
Et donc, c'est tout à fait paradoxal. Plus de raison dans ton corps que dans ta meilleure sagesse. Qui est capable d'accepter une pensée comme ça? Ou on peut aussi citer Spinoza, on ne sait pas ce que peut un corps. Il y a quelque chose, en effet, d'infini. Et j'ai beaucoup aimé déjà ce que vous avez dit sur le silence, sur cet état quasi moléculaire, c'est-à-dire cette approche très fine, en fait. Le corps a quelque chose de plus fin, presque, que notre raison. Et d'ailleurs, Nietzsche disait aussi, ce n'est pas le... Enfin, c'est l'esprit qui est une affaire du corps. On en revient toujours au corps. Ce n'est pas le corps qui est une métaphore de l'esprit, mais l'esprit, qui est une métaphore du corps. Et la phrase d'Artaud est absolument magnifique. Hein. Et alors, Artaud, il disait, j'écris pour les analphabètes. Donc, j'écris pour... est-ce que quand on est analphabète, on donne plus d'importance au corps? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici qui me semble en effet essentiel. Et encore une fois, je suis vraiment ravie de d'entendre ça. Donc, le corps, si vous voulez, il va être... par exemple, j'ai cité Rousseau tout à l'heure. L'idée, c'est de lui redonner... C'est l'être de noblesse, d'être reconduit à lui, de l'écouter. Et ce que j'aime beaucoup chez Rousseau, c'est quand il dit nos premiers maîtres de philosophie, ce sont nos mains,
nos pieds, c'est ça,
pieds et nos yeux, voilà. Et donc il y a cette raison sensitive dont il va beaucoup parler. On commence à s'instruire en commençant à vivre, parce que justement on a ce matériau des sensations. Et je pense qu'on peut presque aller jusqu'à dire dès qu'il y a une sensation, il y a soit la possibilité d'une idée, soit une idée, soit la possibilité d'une idée. Et de la même manière, dès qu'il y a un sentiment, on peut dire la même chose.
Donc, mon idée de footing, elle n'était pas si idiote que ça. Il y a vraiment une relation entre le corps et l'esprit. L'histoire de la douche, pareil, parce qu'on dit le corps est en mouvement. Et puis en plus, je pense qu'il y a l'eau qui est très importante.
Oui,
et
on a
reçu des messages d'auditeurs. Camille, elle nous dit, je crée mes patrons de tricot sous la douche, jusqu'à en sortir pour écrire et oublier de me laver d'ailleurs, mais l'eau me vide la tête et c'est propice à l'inspiration. Sacha, il nous dit, je suis une artiste numérique et mes idées de dessin me viennent au volant de ma voiture où une part de moi divague pendant que l'autre se concentre sur la route. Harry Torgeman, est-ce que parfois divaguer, se laisser aller, un peu oublier, tenter de laisser de côté les projets, c'est ça aussi qui fait naître la bonne idée?
Oui, complètement. Je pense que c'est très très nécessaire à un moment donné de lâcher prise sur justement ses idées, sur sa pensée. Il faut arriver à trouver la voie qui permettra de justement lâcher prise. Et pour moi, il y a un point très important qui est celui de la confiance, en fait, de se sentir en confiance. C'est-à-dire que quand je suis moi sous la douche ou quand je suis avec des gens avec qui je me sens bien en confiance, j'ai l'impression que qu'importe même le lieu, il faut presque un endroit où je ressente une sorte d'harmonie, en fait, où même mon cerveau peut prendre le risque de sortir de son cadre habituel, je dirais. Donc voilà.
Juliette Brun, est-ce que dans le cadre de l'entreprise que vous avez beaucoup étudiée, l'imaginaire, l'émotion dont nous parlons là depuis quelques minutes, ont leur place et ont leur importance dans le processus de création?
Oui, tout à fait. Comme disait Harry, c'est vrai que se laisser la possibilité d'intégrer des connaissances nouvelles, parfois très décalées, ça va renforcer nos capacités créatives. Donc on peut mettre tout à fait l'imaginaire au service de la créativité. Et il y a beaucoup d'organisations qui vont par exemple utiliser des scénarios de fiction, mettant en scène des environnements futuristes ou des îles imaginaires, comme point de départ à un exercice de génération d'idées.
Juliette Brun, merci infiniment de nous avoir accompagnés ce matin, parce que la création, la bonne idée, c'est aussi dans le milieu de l'entreprise. Et je recommande votre livre « D'où viennent les bonnes idées » qui est publié chez Diaténo. Et puis vous, n'hésitez pas à témoigner. On attend vos appels au 01 45 24 7000.
On a le même tempo, mais pas le même pattern. On a le même tempo, mais pas le même pattern. On a le même tempo, mais pas le même pattern. On a le même tempo, mais pas le même pattern.
On a le même tempo, mais pas le même pattern. On a le même tempo, mais pas le même pattern. On a le même tempo, mais pas le même pattern. On a le même tempo, mais pas le même pattern.
On chante la même mélodie.
On chante la même mélodie, mais pas avec les mêmes harmonies.
Je chante à cette octave,
et moi à cette octave.
Je chante les mêmes mots,
pas tout à fait les mêmes mots, pas tout à fait les mêmes mots,
pas tout à fait les mêmes.
Pour toi.
Je joue de la guitare pour toi.
La créativité et l'idée originale sont la matière première de Philippe Catherine, accompagnée par Angèle et Chili Gonzalez pour ce titre duo.
L'été comme jamais. Eva Rock sur France Inter.
Comment et quand naissent nos bonnes idées? C'est le thème de ce numéro de l'été comme jamais. Je voudrais vous lire notamment deux messages d'auditeurs. Vous êtes très nombreux à réagir et on vous en remercie vraiment. Nathalie nous dit « Pour moi, rien de tel que nager en piscine, sous l'eau, voir les carreaux bleus, ne plus être envahi par un paysage sonore, être juste dans les sensations de mon corps et le plaisir d'être comme en apesanteur fait souvent émerger des idées créatrices. D'ailleurs, là, j'y vais, nous dit-elle. Bonne baignade, j'espère que vous attendrez la fin de l'émission quand même et que vous resterez avec nous. Et Virginie nous dit, mon père me disait, tout le monde a des idées, mais il faut savoir les appliquer. Quand je dois provoquer l'idée, elle vient lorsque je ferme les yeux. Toutes mes idées arrivent sous forme d'images, puis j'essaye de voir rapidement comment je vais l'appliquer. Je suis réalisatrice de documentaires et les idées peuvent aussi arriver à des moments où je ne m'y attends pas. Alors évidemment, Nadia Vadori-Gauthier, on a envie de savoir comment est née cette idée de une minute de danse par jour. C'était en janvier 2015, à la suite des attentats contre Charlie Hebdo. Comment est née l'idée?
C'est sûr que c'est une idée à laquelle je ne m'attendais pas. Et il y a un saut entre l'idée et sa réalisation. Oui. Mais l'idée est née du choc des circonstances. C'est-à-dire de ce soir du 7 janvier, devant mon impuissance et devant le choc que j'éprouvais, donc émotionnel, psychique, à tout niveau, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire à part rien? Donc j'avais cette comme ce gouffre en fait, et j'étais traversée aussi de la pensée de nombreux penseurs, puisque je venais de finir une thèse de doctorat. Donc j'avais Nietzsche, j'avais Artaud, Deleuze, mais aussi Ligia Clark, Anna Alprin, enfin des artistes et des philosophes. Et j'avais deux phrases en tête, j'avais cette idée, cette phrase de Nietzsche, de ainsi par les Zarathoustra, et que l'on estime perdu toute journée, où l'on n'aura pas dansé au moins une fois. Et aussi un proverbe chinois qui dit « goutte à goutte, l'eau finit par transpercer la pierre », ce qui veut dire qu'une petite chose peut peut-être finir, si elle est répétée, par avoir un grand effet. Et donc c'est une synthèse entre ce goût, dans ce gouffre, entre et avec la raison, je cherchais des clés, où je me suis dit, ben moi je pourrais peut-être être une goutte d'eau sur la pierre, quelle pourrait être cette goutte d'eau par association et que le jour ne soit pas perdu, qu'on puisse, ouais, que la vie passe, quoi. Et donc, j'ai eu cette idée de danser une minute de danse par jour, chaque jour, sans exception. Je pensais que j'allais faire ça une semaine, deux semaines, un mois. Enfin, j'avais aucune idée que 7 ans après, j'y serais encore.
Et oui, parce que vous continuez ce projet de danse.
Ouais. Voilà, c'est ça. Et donc, il y a un saut entre l'idée. D'ailleurs, je l'ai pas réalisé tout de suite parce que j'ai pas dansé. Oui, le 8, j'ai été danser, mais j'ai pas dansé le 9, le 10. Et puis, il y a eu cette manifestation incroyable du 11. Et à un moment donné, le 14 janvier, j'étais en train de travailler chez moi. Je me suis dit, tu fais ce que tu penses et ce que tu dis ou tu le fais pas. Et vous êtes allée, donc je suis sortie. Et depuis, bah, depuis 2402 jours aujourd'hui, sans exception.
Vous dansez une minute, vous postez la vidéo.
Voilà.
Et alors j'ai une question qui va peut-être vous paraître un peu étrange, mais dans ces vidéos que nous pouvons donc tous voir, il n'y a pas de musique, si ce n'est l'environnement sonore dans lequel vous êtes. Est-ce que vous avez une petite musique en tête quand vous dansez?
Parfois il y a de la musique, mais c'est vrai que la plupart des danses sont sans musique.
C'est très rare, on est d'accord.
En fait, c'est la pulsation du monde. Déjà, j'ai une pulsation interne, dit que je prends mon cheval. C'est comme c'est de se devenir d'être un indien de Kafka, c'est-à-dire d'être traversé par la pulsation, le rythme, et puis l'environnement sonore œuvre comme musique, que ce soit le bruit du vent dans les feuilles, ou les voix d'une conversation, ou le chant des voitures. C'est comme une fréquence sonore rythmique à laquelle je m'agence et que je peux danser. Mais c'est donc je mets de la musique de temps en temps dans les minutes, hein, ça dépend, mais c'est vrai que la plupart du temps, c'est sans musique.
Je vous encourage à aller voir cet émerveillement quotidien, c'est sur le site www.uneminutededanceparjour.com. C'est vraiment un moment de poésie que vous nous faites partager. On a reçu un message d'Edouard. Je voudrais qu'on l'écoute parce que je pense que vous allez réagir, Justine Barbier.
Bonjour, je travaille dans la communication événementielle et je suis très souvent amené à devoir répondre à des dossiers d'appel d'offres avec des scénarios, des scénographies un petit peu originales. Alors nous sommes et je suis toujours à la recherche de bonnes idées et je me suis aperçu avec le temps que le moment privilégié pour faire émerger la bonne idée était dans un demi-sommeil vers 5h du matin, comme si une main prenait le pouvoir sur mon imaginaire et écrivait les premières lignes d'un dossier.
Qu'est-ce que vous en pensez, Justine Barbier, de cette, alors de ce petit matin ou de cette nuit selon laquelle on se réveille?
Alors, je pense aussi plein de choses de ce qu'a dit Nadia.
Oui.
Est-ce que je pourrais après?
Mais bien sûr, bien
voilà.
Sûr.
Alors,
mais sur l'idée de nuit.
Sur cette idée de nuit, de demi-sommeil. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, on disait où naissent les idées, quand naissent-elles? Donc, seules les pensées qu'on a en marchant valent quelque chose. Voilà ce que nous dit Nietzsche. Et seules et beaucoup de pensées naissent la nuit, effectivement. Et là, il y a un exemple très frappant qui est celui du poète anglais Coleridge, Samuel Taylor Coleridge, qui raconte que il s'endort un moment. D'ailleurs, c'est pas forcément la nuit, c'est l'action du sommeil.
Oui,
Donc demi-sommeil. Bon, il s'endort une heure, environ une heure, et au cours, c'est une heure très créative, parce qu'en fait, 200 à 300 vers de son poème Kubla Khan vont lui apparaître, littéralement. Ses idées donc vont venir à lui. Et en se réveillant, il a qu'une idée, qu'une envie, c'est de noter tout cela. Il commence un peu à le faire, sauf qu'il est dérangé dans son activité. Un visiteur arrive, on sonne à la porte, il faut bien qu'il y ait un aspect social. Il ouvre la porte. Et lorsqu'il reprend son activité, il lui reste seulement quelques vers, 8 à 10 vers. Et il racontera, il y a une jolie image, il dira « Tout le reste s'était évanoui, comme les images à la surface d'une rivière où l'on a jeté une pierre. » Et donc, c'est vrai que cette nuit, comme temps très propice à la naissance des idées, c'est aussi le couvercle de l'inconscient ouvre et on inhibe une inhibition dans la mesure où la conscience peut être inhibitrice, justement.
Harry Torjman, ça vous arrive d'avoir de bonnes idées ou d'avoir des idées pendant la nuit ?
Franchement, je dors.
Mais ça, c'est parce que vous êtes épuisé de votre journée.
Exactement. Non, c'est vrai que c'est plutôt effectivement dans la douche où j'ai l'impression que à ce moment-là, il y a comme une, parce que souvent le matin, évidemment, cette douche importante, c'est à ce moment-là où je fais une sorte de synthèse de tout ce qui s'est passé pendant ma nuit, je pense.
Oui. Et alors, je sais qu'il vous est arrivé lors d'une discussion avec une personne d'avoir une idée en fait qui naît en fait de la rencontre avec les gens. Je crois que ça vous est arrivé récemment avec un jeune auteur scénariste, c'est ça ?
Absolument, ouais, c'était pour le développement, enfin c'est pour le développement de son long métrage. Donc il me raconte son histoire pour justement qu'on arrive à trouver des idées autour du développement de son histoire. Et d'un coup, j'ai je sais pas comment c'est sorti, mais en tout cas j'ai eu le titre de son film qui est apparu. Et je le note sur mon iPhone, je lui montre et là il fond en larmes. Ils font l'âme comme si j'avais touché, j'avais synthétisé en deux mots tout ce qu'il avait vécu depuis très longtemps. Et oui, ça a été assez puissant comme moment.
C'était une sorte d'évidence en fait. Mais d'ailleurs, je me demandais, Nadia Vadori-Gauthier, qu'est-ce qui vous enrichit au quotidien? Qu'est-ce qui vous nourrit et suscite donc l'apparition d'idées? Est-ce que c'est la rencontre avec l'autre aussi? Ou vous avez besoin de la solitude? Parce que souvent, on le dit, hein, les artistes, les grands génies ont souvent eu de bonnes idées plutôt dans la solitude que dans le collectif. Qu'en est-il pour vous ?
Moi, j'ai besoin d'être vraiment plongée en moi-même, mais toujours aussi en relation avec le monde. Donc, je dis que c'est pas 50% dedans, 50% dehors, mais 100% dedans, 100% dehors. Et d'habiter cette jonction, finalement, entre les deux. Et d'écouter aussi, Justine, et d'écouter aussi ce qui vient d'être dit. Moi, je pense aussi à André Masson et Artaud qui travaillaient soit avec l'écriture automatique, soit avec le dessin automatique. Et André Masson parlait d'un inconscient vraiment volontaire. Et moi, je pense que je m'engage dans cette pratique d'un inconscient vraiment volontaire pour aller chercher à partir de strates informulées en soi, activement avec la conscience, pour aller chercher volontairement dans des bords qu'on ne saurait pas définir ou un hors-champ de la pensée ou de la perception externe, et suivre des chemins, des fils dynamiques qui permettent finalement d'imaginer ou de faire sourdre des images à partir de cette pratique impliquante, mais vraiment de me connecter chaque jour, du coup, à ces sources qui n'ont pas encore de mots, qui n'ont pas encore d'images, pour faire jaillir à partir d'elles autre chose.
Mais alors, quand vous dansez une minute par jour, est-ce que ça veut dire qu'il faut que vous ayez une bonne idée par jour? Ou en fait, c'est un autre processus créatif qui se met en place?
C'est un agencement. C'est-à-dire que je dis que j'ai un corps sismographe. Comme un sismographe qui tracera en temps réel les secousses sismiques, mon corps trace en temps réel, dans la danse, par la danse, des informations qu'il reçoit, à la fois de strates sensibles de la perception, le son, l'image, etc. Mais aussi à partir de sensations physiques, mais aussi à partir d'un formulé ou d'un hors-champ interne, externe de la perception, des informations qu'il trace.
Mais alors, par exemple, si on prend le cas d'aujourd'hui, vous n'avez pas encore dansé depuis ce matin.
Non.
Est-ce que vous savez où vous allez faire votre minute de danse ou vous allez vous laisser porter par votre journée?
Je ne sais pas. J'ai mon pied de caméra.
Je vois, il est à côté de vous.
On ne sait jamais.
On ne sait jamais.
Je n'ai pas encore l'idée ou la fin. Je n'ai pas
vous
encore.
Vous avez un fond rouge derrière vous.
Voilà, c'est ça. La couleur peut m'appeler.
Justine Barbier, il vous est arrivé une drôle d'aventure dans un train. Et j'aimerais bien que vous nous la racontiez parce que elle est très révélatrice de comment naissent les bonnes idées aussi.
D'accord, donc je rebondirai après.
Oui, oui.
Ouais. Alors oui, donc c'était effectivement ce qui m'avait semblé. Ce qui m'a beaucoup intéressée là, c'était ce sentiment de nécessité. C'est-à-dire que, en effet, bon, c'était un jeudi, un après-midi, voilà. Et j'étais en effet dans ce train, je rentrais chez moi après le travail. Et puis, j'ai eu besoin d'écrire, mais à un point, effectivement, donc j'avais pas de papier, pas de crayon. J'étais habitée par une très intense émotion et je sentais vraiment qu'il fallait que je déverse ce contenu, quoi. Donc, bon, très gentiment, quelqu'un me donne un papier, un crayon, voilà, je me mets à écrire. Et effectivement, c'est un peu ce que racontait la personne. En faisant ses patrons dans son bain, qui devait être mouillé, du coup. Bon, moi, j'étais tellement émue que je pleure. Au moment où j'écrivais, les mots s'effaçaient presque des larmes que je versais. Il y avait quelque chose comme ça. Et effectivement, ce moment m'avait marqué parce que c'était un peu la phrase de. Enfin, ça me fait penser là à la phrase de Rilke qui dit tes idées, tes visions sont faites du futur qui attend sa naissance. C'est-à-dire que je m'étais sentie. Ces mots, ils étaient déjà là, d'une certaine manière. Et c'était ce futur qui attendait sa naissance et qui ne demandait qu'à. Qui ne pouvait pas ne pas accoucher. Il y avait quelque chose.
Il y avait une urgence. Il y avait une nécessité à écrire.
Il y avait une nécessité très forte et effectivement, ça m'avait semblé être un moment rare pour ça, par l'intermédiaire de cette force de la nécessité. Et donc, je citais Rilke à l'instant, mais Rilke justement, il en fait le critère même de dois-tu écrire ou pas. C'est-à-dire que ce soit une phrase ou un livre ou voilà. Mais le jeune poète lui demande si ses vers sont bons. Et il lui dit, mais en fait, c'est la nature de leur origine qui détermine s'ils sont bons ou pas. Donc, me demande pas. Rien n'est pire que la critique pour aborder une œuvre. C'est l'amour qu'il faut, c'est pas la critique. Et donc, si ces vers sont bons, mourrais-tu s'il t'était défendu d'écrire, si tu es capable de répondre oui à une aussi grave question? Alors, construis ta vie selon cette nécessité.
Et donc, vous avez écrit un poème. Les vers étaient entre mes mains. Je les ai donnés à Nadia Vadori-Gautier. Vous accepteriez d'en lire quelques-uns?
Tout à fait.
Le début
avec
du poème?
Avec grand plaisir.
On vous écoute alors.
D'une certaine manière, ce n'est pas de toi que je parle, car cette langue est simplement celle de la rencontre d'un possible que je ne connaissais peut-être pas, que j'ai découvert grâce à toi et qui me lègue là un puissant héritage. Ces instants-là vont devenir le fantôme et le fantasme qui viendront rôder près de mes fatigues, qui apparaîtront chaque fois que mon désir se désespère de ne se satisfaire que de toi. Cette eau si pure que j'ai bu, cette source claire, ne me feront goûter qu'au calcaire de ceux qui ne seront pas toi.
un entomologiste cruel a cloué d'une épine mon échine à l'instant. Et je ne me remettrai pas de ces secondes, de ces minutes, de ces heures qu'aucune horloge ne mesura.
On a vu, je suis obligée de décrire ce qui vient de se passer dans le studio parce que vous ne saviez pas que j'allais vous tendre la poésie, les vers de Justine, Nadia, et vous dansez quand vous récitez, c'est-à-dire qu'on voit votre corps se mettre en mouvement. Et Justine, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre des vers que vous avez écrits, mais lus par quelqu'un d'autre, donc avec une interprétation forcément?
Ah oui, encore une fois, je suis ravie de cette interprétation et je trouve ça beaucoup mieux que ce soit pas moi qui le lise. Enfin, je trouve que, en effet, ça me touche beaucoup, en fait. Oui. Voilà, peut-être c'est ça aussi que vous avez perçu, c'est que là, je suis presque au bord des larmes.
Oui, mais parce que, en fait, c'est ça aussi, les bonnes idées, il y a toujours une émotion derrière, il y a la puissance de l'imagination, la puissance de l'imaginaire qui joue, forcément.
Il n'y a pas le temps, il n'y a plus le temps. Ouais. J'ai encore Rilke en tête, l'artiste, c'est l'éternité qui pénètre dans haut les jours, mais là, du coup, il n'y a plus le temps, il n'y a plus, je l'ai écrit, je ne sais même pas quand je l'ai écrit, mais il y a cette idée que c'est encore là, voilà, et que, d'ailleurs, il s'adresse à personne en particulier, oui. Finalement, c'est ça qui m'a plu aussi dans l'histoire, c'est que à la base, c'était censé parler de quelqu'un, mais en fait, bon.
Oui.
Oui. Et donc, je suis vraiment. Merci, quoi.
Harry Torgeman, est-ce qu'il y a une urgence, une nécessité à créer pour vous aussi en matière audiovisuelle? Est-ce que des fois, vous vous dites, il faut vraiment y aller, là, c'est la bonne idée, ou en tout cas, ce projet-là, il faut absolument le faire?
On est dans une entreprise où oui, il faut produire théoriquement pour pouvoir vivre, mais je pense que pour faire naître et pour faire émerger une bonne idée, il faut essayer de se soustraire de cette partie là et de réfléchir hors des contraintes économiques, j'allais dire, pour avoir vraiment les bonnes idées. Ça me fait penser à Kian Kojandi quand il a créé Bref. Lui, il était dans une nécessité de créer, mais qui a émergé, donc Bref a émergé parce qu'il avait accumulé des années et des années, comme il m'a dit, d'ennui. Il s'est ennuyé énormément et donc c'est comme ça aussi qu'est né Bref. C'était extraordinaire quand il m'a raconté ce processus-là pour lui.
L'ennui, c'est aussi un processus créatif indispensable. L'été comme jamais sur France Inter.
Derrière leur écran total, les gens se régalent. La ville est à cran d'arrêt, visage pâle, c'est le carnaval. Mais où sont les enfants et les clairières d'opale dorénavant? Ah, que le cœur me fend, je me souviens mal du monde d'avant, très mal. C'est où et quand, pour le grand final, le feu de Bengale. Derrière mon écran sans doute, mon écran total, à perdre les pédales. Je n'avais pas mes lunettes spéciales. J'étais où et quand, derrière mon écran, et je disais mal. Mon amour pour toi, mon amour pour toi, pour toi. Sur quel pied le danser? Mon amour pour toi, pour toi. Sur quel pied le danser? Mon amour pour toi, mon amour pour toi, pour toi. Sur quel pied le danser? Mon amour pour toi, mon amour pour toi, pour toi. Sur quel pied le danser? Grand président, sanglot de reptile, s'adresse sans dents. Rien à l'abri dans son palais d'argile, avec tous ses descendants. Normal, mais il pleut sur la ville, et on le sait, l'argile mollit. Eh oui. Alors tous les civils, vous, sanglot de reptile, aux gémonies. C'est génial! On le linge sur la place publique, on piétine le pacte civique. Ah, tu fais moi le malin, sanglot de reptile. Maintenant que t'es plus derrière ton écran, t'as vraiment pas l'air si grand. Essaye pas de t'enfuir avec des talonnettes à 4000 poules qui servent plus à rien maintenant. Nous aussi on peut en faire des euros sur ton dos, ou jette des pièces comme sur l'écran de ton vivarium. Ah, tu fais moi le mariole. Tout ça pourquoi? Parce qu'on
L'excellent groupe Feu Chatterton et le titre Écran Total sur France Inter. J'espère que vous aurez eu de bonnes idées en écoutant cette émission et nos invités que je remercie, Justine Barbier.
Merci.
On attend votre prochain livre Conversation délectation philo-scientifique écrit avec Hicham Lamrini et je conseille également votre site justinebarbier.com pour découvrir votre univers. Nadia Vadori-Gauthier, pardon. Merci beaucoup. Votre 2402e, je l'ai bien dit, minute de danse est à voir aujourd'hui sur Instagram et toutes vos vidéos sur www.1minutededanceparjour.com. Harry Torjman, vos séries sont disponibles sur YouTube, votre documentaire à voix haute est à voir sur Netflix et votre prochain film documentaire que l'on attend impatiemment, Rosie, est attendu au cinéma en janvier 2022. Comme tous les jours, je vous propose de prolonger ce sujet, de découvrir un lieu situé à Monaco, c'est la Fondation Francis Bacon. C'est un lieu privé mais que vous pouvez visiter, il suffit de prendre rendez-vous. Toutes les informations sont disponibles sur Internet et vous allez découvrir le parcours de ce peintre britannique qui symbolise ce sens de la créativité, de la puissance et de l'inspiration. Un grand merci à l'équipe d'artistes de l'été comme jamais, Juliette Medeviel à la réalisation, Grégory Wallon à la technique, Margot Page, Anna Massardi et Marie Aubert à la préparation, Muriel Pérez à la programmation musicale. Demain, je vous donne rendez-vous à 9h pour un nouveau numéro de l'été comme jamais, avec un sujet qui pourrait vous faire réagir, que faire de son passé amoureux. Dans quelques secondes, Charles Pépin, philosophe avec l'écrivain Camille de Toledo, autour d'une question, peut-on faire une force de ses faiblesses ?